franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le vélo utile. Jusqu'au milieu d'août, une exposition à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris, rue Malherbe donc, témoigne du retour du vélo en ville. Dans beaucoup de villes, et pas seulement à Paris, le vélo permet en effet une nouvelle perception de la cité, chacun pouvant s'y inscrire dans un parcours libre, j'allais dire, dans une écriture qui lui soit propre. Du vélocipède au Vélib, c'est le titre de l'exposition de Paris. La nouvelle culture du vélo, encore très minoritaire, se plaît en effet à s'inscrire dans une longue histoire. Mais qu'a-t-elle à voir, en réalité, avec la culture populaire du vélo, telle qu'elle a connu son zénith dans les années 1920-1960, quand le vélo était le moyen numéro un de déplacement des adultes et d'émancipation des jeunes? Notre invitée, Catherine Berthaud-Lavenir, bonjour.
Bonjour.
Qui est professeure dans une université parisienne, n'y exerce pas actuellement parce qu'elle est détachée à Weimar, en Allemagne. Elle a beaucoup écrit sur le vélo. Elle fait le catalogue de cette exposition. Et vous dites que c'est un outil simple, le vélo, mais c'est un objet très complexe.
Oui, c'est un outil en fait, qui s'est transformé pour obéir exactement aux nécessités des différents usages. Donc, on a eu des vélos sportifs, on a eu les vélos qui permettent de pédaler en gardant le dos droit des dames de la bonne société qui se déplaçaient en ville. On a eu les vélos déglingués, des petits garçons dans les villages. On a eu les vélos de course. Et aujourd'hui, on a le Vélib ou le Fixie ou tous ces vélos nouveaux dont la forme correspond exactement à des usages différents.
Donc, il faut trouver son chemin d'abord parmi les mots.
Marsan s'est ouverte dernièrement l'exposition rétrospective de la bicyclette. Archéologie du cyclisme. Voici la Drésienne de 1818, engin malheureusement peu stable. Avec la catène, le vélo à pédale était né. Bientôt, le grand Vie voyait le jour. En descendre était toute une affaire. L'ancêtre du frein. Et en 1900 naissait l'élégance vélocipédique. Les hommes, écrivait alors un humoriste, voient beaucoup de reconnaissance à la bicyclette parce qu'elle a rendu les femmes aussi laides qu'eux.
Bon, ça, c'est un jugement de valeur que vous ne partagez pas, Catherine Berthaud-Lavenir. Mais la bicyclette, c'est plus féminin et le vélo plus macho-prolo?
Bon, on se connaît presque tous le joli texte de Philippe Delerme, La bicyclette et le vélo. Alors lui, il oppose la bicyclette, qui serait effectivement plus féminine, plus élégante, plus bourgeoise, mais aussi le moment de la promenade, on peut s'arrêter en ville, on peut en descendre. Et le vélo qu'il voit comme sportif, lui, il voit le vélo comme le moment, le moyen d'une expérience sportive. On descend pas, on va le plus vite possible. En fait, le vélo, c'est aussi, après la guerre de la fin de la guerre de 1914, le mot populaire qu'on utilise pour décrire cet engin qui permet de se déplacer sur deux roues dans les milieux populaires, à la campagne, chez les ouvriers et pour les enfants.
C'est l'acception qu'on va utiliser aujourd'hui. Et comme vous aimez bien donner souvent la priorité à la filière technique pour expliquer l'histoire, parlons d'abord de l'industrie du cycle. Ça va faire plaisir au CAFIC qui vient de m'écrire, le collectif des auditeurs de France Inter, de l'industrie du cycle. Alors faites très attention, il y a des experts à l'antenne. Parlez-nous de l'industrie du vélo et de l'industrie du pneu dans ces années que vous évoquiez.
Bon, alors, on va faire comme l'exposition qui était signalée tout à l'heure, celle de 1941. Jusqu'... Non, je parle de celle...
Ah oui, l'exposition de 41. On entendait un écho de 41.
Quand on entendait la publicité, là, on va remonter pour... au Grand Bi. Alors, le début de ce qu'on appelle la bicyclette, du grand bi, du vélocipède, enfin à l'époque du vélocipède, c'est un engin pas du tout commode qui sert à se faire voir au bois de Boulogne, à montrer qu'on est habile, élégant, qu'on est spectaculaire. C'est une espèce de culture du plaisir qui reviendra plus tard. Mais après 1880, arrivent d'autres sortes de bicyclettes, d'Angleterre d'ailleurs, et celles-là, elles ont des caractéristiques techniques bien précises. Elles ont deux roues égales, elles ont un pédalier et une chaîne d'entraînement, elles ont des freins. Ça veut dire que on peut les prendre pour partir sur la route ou pour se déplacer et qu'on risque pas de se casser la figure. Et c'est ce type d'objet que l'industrie va fabriquer en masse et qu'elle va vendre au plus grand public possible. D'abord, des gens relativement riches, et ça, c'est ce qui se passe jusque vers début de la guerre de 14 à peu près, c'est plutôt des gens de la bourgeoisie qui peuvent acheter ça, ça coûte cher, 300 francs, 400 francs, il y a les pneus, faut les changer, c'est... Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, alors là, on essaie de toucher le grand public et les industriels vont utiliser les moyens de la publicité de l'époque.
Alors, les moyens de la publicité de l'époque, c'est-à-dire l'affiche grand format et aussi bien le disque.
Ça fout, si le tour est long, t'en verras le bout, tu tiendras le coup, et les mains en haut du guidon, tu feras vainqueur le tour d'honneur, que ce soit le Tourmalet ou bien l'Aubisque, les pavés du Nord, la boucle de Sosfel. Tu les vaincras, voyons, qu'est-ce que tu risques. T'as le dérailleur simple, et y a rien de tel. Qu'est-ce que ça fout, pédale avec cœur. Pour ton succès, ne sois pas perplexe. Pour t'aider à revenir vainqueur, t'as le dérailleur simple.
Que chante Raymond Souplex, bien sûr. Il y a d'autres noms de marques, parce que là, c'était les dérailleurs. Le pneu, c'est d'abord Dunlop dès la fin du 19e siècle. Mais parmi les grandes marques françaises, la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne, il y a une grande exposition actuellement à Saint-Étienne.
Oui, alors la manufacture des armes et cycles, elle va en particulier populariser la bicyclette hirondelle, qui va être utilisée par les forces de l'ordre, d'où le nom des hirondelles. Mais il y a aussi Peugeot, par exemple, qui ensuite passera à l'automobile, mais qui commence par la bicyclette. Et puis, il y a Mercier, qui était un grand organisateur d'équipes cyclistes. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très grandes pour les bicyclettes. Et puis, il y a déjà des multinationales pour les pneus.
Mais ce n'est pas une technologie marginale. Elle a eu un effet structurant.
Ah non, c'est une technologie qui est centrale. C'est d'abord une technologie de la seconde révolution industrielle. Donc, elle se construit, elle se vend avec les produits de la seconde révolution industrielle, l'acier et le caoutchouc. Et puis, surtout, elle cherche à toucher le plus grand marché possible. C'est la consommation de masse.
L'industrie du cycle et du pneu joue donc la carte de la démocratisation et de l'accessibilité. Ici, c'est un film de Claude Pinoteau, Les Palmes de Monsieur Schutz. Nous sommes dans les années 1890, en compagnie du couple Pierre et Marie Curie, à l'occasion de leur mariage. Leurs amis se cotisent pour leur offrir quoi, devinez ?
J'ai oublié. Avec quelques jours de retard, mon cadeau de mariage.
Ouais. Merci. Mais qu'est-ce que c'est ?
Quel est le point faible des bicyclettes ? Les crevaisons. Alors ça, ce sont des bandes imperforables de mon invention. Un film de métal collé sur la toile. Suffit d'emmailloter les pneumatiques.
Merci, Gustave. C'est très astucieux, mais tu sais, nous n'avons pas de quoi acheter des bicyclettes.
Ah oui. Eh ben, allons voir dans un cours.
Nous partons en voyage de noces.
On nous a offert des vélos.
On devait être au village avant la nuit.
Ouais, on devait.
Passe-moi la clavette, s'il te plaît. Les roulements à billes sont presque morts.
Alors ils vont peut-être pas tenir jusqu'au Mont-Saint-Michel.
J'en ai bien peur.
Et le Mont-Saint-Michel, on a beau dire, mais c'est tout de même,
vraiment loin.
Oui.
Très pentu.
Assez, oui.
Pour tout dire, très ensablé.
Exactement.
On rentre à Paris. On retourne au labo.
Oui, 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 je n'osais pas te le demander. Je t'aime.
Vous savez à qui me font penser les Curie, là ? À Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui, 50 ans plus tard, font à peu près le même genre de voyage ou de non-voyage à vélo. En fait, on n'est pas du tout dans le vélo utile, là, malgré les apparences. Pourquoi on leur offre un vélo ?
Ils vont au labo.
Ben, oui, mais ils étaient partis pour le Mont-Saint-Michel.
Oui, mais ils ont préféré aller au labo.
Donc, En fait, le premier usage, le grand usage des années d'écurie, c'est un usage, c'est le Touring Club de France. C'est aller se promener, c'est prendre du plaisir à découvrir des endroits nouveaux. Et ça va glisser peu à peu vers des usages vraiment utiles. Aller de chez soi au travail. Et là, on voit juste avant la guerre de 14, les cartes postales de sortie d'usine commencent à montrer des gens en vélo, surtout d'ailleurs dans les usines de mécanique. Et puis, après 1918, alors on va retrouver partout du vélo utile, mais tout à fait différent. On va trouver les facteurs, on va trouver les livreurs, on va trouver les triporteurs dans Paris, on va trouver les petits télégraphistes. Donc, des métiers qui vont s'emparer du vélo. Le vélo pour aller de chez soi au travail, le vélo pour aller faire des courses, par exemple à la campagne, ou pour aller au marché, chez les paysannes, et puis le vélo des enfants qui vont à l'école, et parfois c'est très important.
Alors parlons des paysannes et des paysans, comme dans le couple Curie, c'est l'homme et la femme, chacun a son vélo. Le paysan n'a pas de tracteur, et la paysanne va au marché avec le vélo.
Alors souvent dans les familles, on parle là du début du siècle, hein, ou des années 20, il n'y a qu'un vélo. On voit déjà se séparer les vélos féminins et les vélos masculins, tout simplement à cause des jupes. C'est plus facile d'avoir un vélo féminin pour quand on porte une jupe. Et d'ailleurs, les curés vont prendre des vélos féminins parce qu'ils ont leur soutane, ils sont obligés d'en tenir compte.
Enfin, une fois que l'Église a donné l'autorisation d'utiliser le vélo.
Le vélo, non, sans prudence. Les curés italiens vont avoir le droit de ne pas soulever leur chapeau, même en croisant une dame, parce que ça pourrait compromettre leur équilibre et donc leur dignité.
Vous en étiez aux paysannes qui vont au marché avec à côté alors une remorque, toutes sortes d'objets qui sont adaptés au vélo. Le vélo est personnalisé aussi.
Alors souvent, on pense au vélo un peu spectaculaire, un peu élégant. C'est ce qu'on voit dans les expositions. Mais en fait, les vrais vélos utilisés, par exemple, ils avaient des problèmes de transport des objets. Comment est-ce qu'on accroche un sac, un panier sur le vélo par exemple? Pendant longtemps, on n'a pas eu de ces tendeurs en caoutchouc qui s'étaient diffusés dans les années 50 et 60 et qui étaient bien commodes. Il n'y en avait plus pendant la guerre. Il fallait utiliser des ficelles, ça cassait. Ou alors on accrochait des carrioles au vélo. Mais il faut savoir diriger un vélo avec une carriole attachée derrière.
Et le vélo ouvrier.
Parlons c'est chiaro, ce l'hai ou non ce l'hai, cette bicyclette? Si non ce l'hai, bisogna dare posto a un altro.
Nous sommes dans le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, donc celui qui offre du travail est clair dès l'annonce. S'il n'y a pas de bicyclette, il n'y a pas de contrat.
Alors, Ricci, sta bicicletta, c'è sta o non c'è sta?
C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento.
Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta, non c'è niente da fare.
E che sta aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è pensa. Mi presento.
Voilà, c'est très net. On pense aux gens qui aujourd'hui perdent leur permis de conduire ou n'ont pas les moyens de se le payer et qui vivent en milieu ouvrier mais rural et peuvent pas trouver de travail.
Oui, et c'est une aventure qui est triste, hein, mais qui est tout à fait fréquente. On l'a vu raconté dans un film qui se passe au Vietnam. Si vous lisez des récits de vie chinois, traduits évidemment, vous trouvez souvent cette idée que quelqu'un s'est fait voler sa bicyclette, l'a perdue, donc perd son travail. Et puis je viens de lire l'histoire de la vie d'un quelqu'un qui était gardien d'un cimetière en Allemagne. Juste en 1945, il se fait voler sa bicyclette, mais il perd son travail en même temps.
Le gamin de Dardenne, le gamin au vélo, lui perd son père et son vélo. C'est un film qui vient de sortir. L'émancipation de l'enfant par le vélo, c'est très général avant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors c'est très général et quand on récolte des récits de vie, qu'on fait des entretiens avec des personnes âgées, on trouve, c'est un thème qu'on retrouve très souvent. Et dans des tas de situations différentes. Je me souviens avoir discuté avec le chef d'un grand ordre religieux qui sortait d'un petit village du Jura. Et quand on a détecté que c'était un bon élève, il y a eu une sorte de lutte entre l'instituteur et le curé pour savoir s'il irait au séminaire ou à l'école normale. Et en fait, il est allé au séminaire et le curé l'avait emporté, en particulier parce qu'il avait offert une bicyclette pour qu'il puisse aller à la ville voisine, poursuivre ses études.
Va et vient avec l'actuel, le présent, la présidente brésilienne vient de prendre une initiative beaucoup plus large que le supérieur du séminaire du Jura.
Oui, c'est l'idée de mettre à la disposition de 30 000 enfants, si je me souviens bien, des bicyclettes pour pouvoir aller à l'école. Alors, c'était tout. Ça a été vraiment important C'est complètement lié en Europe à la question de la carrière scolaire, enfin de la capacité à suivre des études, notamment des enfants de paysans.
Rôle de l'initiative politique, elle est très forte en faveur du vélo dans ces années d'avant-guerre. L'administration a d'ailleurs donné le branle. Par exemple, l'administration des postes, ici l'école des facteurs, le court-métrage de Jacques Tati, qui précède Jour de fête, un formateur explique aux facteurs qu'il faut des vitesses différentes, des accélérations différentes selon qu'on livre télégramme ou lettre.
Du jarret, messieurs, du jarret. Attention, vous marchez à l'allure normale de plongée. À mon commandement, télégramme. Bien, bien, bon, très bien. Pour descendre, descendez. Bien. À mon commandement, attention, bicyclette hanche, 1, 2. Boîte ventre, 1, 2. Cherchez lettre. 2, tendez l'autre, 1, 2, 3, 4, autant, autant, attention, enfourchez,
tiens, voilà le vélo du facteur.
Il connaît bien sa tournée, puis le temps qu'il a fait.
Alors, il s'arrête très bien au bistrot.
Oh, mon gravier, mon gravier. Chaque fois, je suis obligé de récupérer le gravier dans le gazon.
Moi, quand je vois du gravier, c'est pas qu'un principe, c'est une question de style.
Une fois, c'est pas le gravier que je ramasse.
Plus de gravier. C'est de bonne guerre.
Oh, il y a une petite goutte.
Ouais, c'est pas de refus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le vélo utile avant et après-guerre avec Catherine Berthaud. L'avenir qui aura remarqué qu'avec un tendeur, on a accroché une remorque au film de Tati. C'est un extrait de Long dimanche de fiançailles qu'on a entendu à la fin.
Alors, je voudrais revenir sur l'école des facteurs. C'est pas très gentil hein, comme film. Parce que si vous vous en souvenez, les facteurs, ils sont ridicules. Hein. Et dans Jour de fête, le facteur qui est joué par Tati lui-même, il est ridicule. En fait, c'est un monde dépassé. Ça marque le moment où les gens qui continuent à utiliser un vélo vont être dépassés par des moyens plus rapides. Alors là, c'est burlesque, hein. C'est l'américanisation, c'est l'avion, c'est tout ce dont on peut rêver. Mais sur le fond, c'est une façon de jeter un peu dans les poubelles de l'histoire facteur à bicyclette.
Le zénith du vélo populaire, c'était pendant l'époque heureuse de l'occupation. On aurait pu passer à un extrait de La Grande Vadrouille, mais là, c'est un montage d'archives par Jacques Cigale. Nous sommes donc dans les années 41-42.
Paris, 1941. Tandem, vélo-taxi. Plus que jamais, la bicyclette mérite son surnom de petite reine.
À Montmartre, épreuve bien à l'ordre du jour, celle de la course de la remorque cycliste. Remorque pliable en osier, en aluminium, aérodynamique, ouverte ou fermée, gravisse la rue Lepic.
Paris. De jeunes mariés sortent de l'église et le maître de cérémonie, selon l'usage, fait avancer les équipages devenus, au signe des temps, des vélos-taxis.
Championnat des transports utilitaires à pédales qui se disputent sur les boulevards circulaires de Paris. Les triporteurs doivent peser au total 70 kg et on a imposé 40 kg de charge aux remorques.
Vous avez dit l'époque heureuse de l'occupation. Attention, non, ça, ce qu'on entend là, c'est plus ou moins de la propagande. Hein. Il faut faire attention. Alors, effectivement, il se passe quelque chose pendant l'occupation. D'abord, on interdit plus ou moins aux Français d'avoir des automobiles, sauf les médecins. C'est avec les forces d'occupation, la police, la milice qui ont des voitures. Tous les autres, il faut qu'ils aillent à bicyclette. Alors pour eux, c'est pas drôle. Hein, quand vous étiez habitué à aller, par exemple, en métro à votre travail ou en train et que c'est à 10, 15, 20 km et puis qu'il faut avoir une bicyclette, pas se la faire voler, trouver le moyen de réparer les pneus, faire 40 km dans la journée, c'est pas du tout drôle. Alors ce qui est là, on voit très bien, par exemple, les numéros, l'illustration, ou bien les photographies, comme celles qu'il y a dans l'exposition, qui sont critiquées, hein, qui sont expliquées.
L'exposition de la Galerie des Bibliothèques de la ville de Paris.
Voilà, c'est bien expliqué. Les photographies et les textes, c'est de la propagande pour dire aux Français, ben finalement, vous avez bien un peu mérité d'être envoyé à la bicyclette. Donc on pourrait dire, ben non, les gens ils vont avoir des mauvais souvenirs de la bicyclette. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont pas vouloir, ils vont passer à l'automobile tout de suite dès qu'ils pourront en avoir. Alors en fait, c'est pas complètement vrai. Moi, j'ai interviewé plein de personnes d'un certain âge et je leur ai demandé ce qui s'était passé pendant la guerre avec leur bicyclette. Ils m'ont tous raconté des histoires qu'on pourrait imaginer un peu terribles, hein, aller chercher des provisions, fuir les bombardements, faire Paris-Rennes à bicyclette avec une bicyclette pour revenir avant pour aller chercher sa fiancée, revenir avec la bicyclette sur le dos. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, non, les gens, ils en avaient des bons souvenirs. Pourquoi ? Parce que, alors que l'État était dangereux et que l'occupant était effrayant et dangereux, la famille, les amis, les relations se repliaient pour s'aider, pour se défendre. Et la bicyclette, elle est au cœur de ça.
La bicyclette a donc prouvé son importance. Elle est le lieu de la liberté privée. À son zénith, il dure encore en 1949, un son d'archives de la chaîne parisienne. On reproche cependant à l'État de vouloir la taxer, imposer des plaques.
Parmi les 700 000 cyclistes environ, amateurs ou professionnels, qui circulent chaque jour dans les rues de Paris, le département de la Seine ne se place pas en tête des départements les plus cyclistes de France, c'est-à-dire des départements où le nombre de cyclistes est le plus important par rapport à la population totale. Le record appartient aux Landes, à cause bien sûr des routes plates et très cyclables. Les Landes comptent 39 vélos pour 100 habitants, alors que la moyenne générale est de 26 vélos pour 100 habitants. Mais ce qui est curieux, c'est que la bicyclette est surtout répandue au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que cette statistique repose sur des données fiscales et que bien des citoyens ne sont pas très chauds pour payer la plaque de contrôle. Sur les 15 millions de vélos, 11 millions sont déclarés et les 4 millions de clandestins roulent surtout au sud de la Loire.
Mais alors, si on fait de la géographie objective et pas subjective, là, comme dans ce reportage, Catherine Berthoud-Lavenir, ce qui va expliquer la montée de l'automobile, c'est aussi l'éloignement du déplacement du lieu de travail et du domicile.
Oui, oui,
plus grand
ou l'inverse.
Aujourd'hui.
Ou l'inverse. Non, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que en une dizaine d'années, à peine, dès que les gens pourront accéder à l'automobile. Avant la guerre, il n'y a que les gens des classes moyennes supérieures qui ont l'automobile, des commerçants, des avocats, des instituteurs commencent à en avoir, on le sait, parce qu'ils sont assurés, ils assurent leurs automobiles. Donc la MAIF les assure, c'est comme ça qu'on sait qu'il y en a. Mais dès que vraiment les 4 chevaux, les 2 chevaux, les voitures d'occasion permettent à tout le monde, toutes les familles ouvrières en particulier, et aux familles paysannes de s'acheter des automobiles, alors à ce moment-là, le vélo qui permet d'aller, pas qui permet d'aller au travail, qui permet de faire des trajets moyens, d'aller voir la famille, de sortir le dimanche, il disparaît complètement.
Mais attendez, vous nous expliquez qu'il faut toujours complexifier ce qui apparaît trop simple. Il y a eu quand même l'objet de transition, qui est le deux roues à moteur.
Alors ça, c'est l'autre chose étonnante, et qui renvoie d'ailleurs au fait que dans des tas de villes aujourd'hui, si vous ouvrez une piste cyclable, soudainement vous voyez plein de motos et de scooters se mettre dessus. Quand on remonte aux récits de vie, il y en a plein sur Internet. Vous pouvez aller en chercher des gens qui ont publié, écrit leur vie, et puis c'est publié sous forme numérique sur Internet. C'est très intéressant et très agréable à lire. Très souvent, dès qu'ils peuvent, pour aller travailler, quand c'est un peu loin, quand c'est compliqué, les gens prennent d'abord un Solex, hein, qui apparaît après 49, puis des mobilettes, puis des cyclomoteurs, parfois des scooters. Et finalement, c'est la mobilette et le cyclomoteur qui sont la raison pour laquelle on abandonne le vélo utile.
Ce qui fait que sur les routes, à partir des années 50, encore une dernière archive, la radiodiffusion nationale 1950, il y a une profusion de véhicules très divers, d'où cette question.
Veuillez écouter les conseils juridiques par maître René-Georges Étienne.
Mes chers auditeurs, la bicyclette est-elle ou n'est-elle pas un véhicule ? Telle est la question dont disputent actuellement cours et tribunaux. De la solution de cette petite controverse de vocabulaire français dépend la solution d'un problème juridique dont les conséquences pratiques sont fort importantes. En effet, si la bicyclette constitue bien un véhicule, les dispositions du chapitre 1er du Code de la route lui sont applicables et, par conséquent, en vertu de son article 10, le cycliste, en cas de croisement, possède la priorité sur le conducteur de tout autre véhicule venant de gauche. Si au contraire, la bicyclette ne peut être considérée comme un véhicule, le chapitre 1er du Code de la route ne s'applique pas aux cyclistes et le chapitre 5 qui les concerne plus spécialement ne réglant pas cette question de priorité, le cycliste, en cas de croisement avec un véhicule venant sur sa gauche, ne peut prétendre à la priorité.
Oui, alors on peut dire comme tout, que finalement c'était un désir, que tout le monde avait envie d'avoir un moteur, que ce soit une mobylette ou une automobile. Mais il faut bien dire que l'État et les institutions ont drôlement soutenu cette transformation, ce basculement vers l'automobile, et en particulier avec la façon dont on enseignait le code de la route. J'ai regardé la façon dont on montrait les enfants à vélo dans les petits ouvrages qui étaient distribués dans les écoles pour apprendre aux enfants à aller sur la rue et sur la route. On considère que c'est le cycliste qui a tort quand il arrive une voiture. Les enfants sont dangereux parce qu'ils peuvent surgir à vélo, ils peuvent tourner brusquement, et si rencontrent une voiture, ben c'est de leur faute à eux.
Il ne s'agit pas de choix juridiques seulement, comme disait cet avocat, mais de choix politiques. Longtemps donc a été favorisé l'automobile. Alors maintenant, dans certaines villes, par exemple les villes de gauche, il n'y a pas que Paris, hein, il y a Strasbourg, La Rochelle, Lyon. Avant Paris, le choix politique est en faveur du vélo. Est-ce que vous diriez que c'est l'illustration, les limites du phénomène Vélib, de la difficulté cruciale que connaît la gauche aujourd'hui? Son éloignement progressif des choix des classes populaires, tant que le Vélib ne sera pas utilisé par tous pour aller au travail, on ne pourra pas dire que c'est une réussite totale.
Je dirais une chose, c'est que le vélo dont nous avons parlé aujourd'hui, le vélo utile, il allait avec une France, puisqu'on parle de la France, où il y avait une grande classe ouvrière et où il y avait beaucoup de paysans. Et maintenant, il n'y a presque plus de paysans. Et la classe ouvrière, en tant que classe, a disparu. Donc, quoi, la bicyclette ait un rapport différent à la société, c'est pas étonnant. Mais il me semble que c'est pas la seule façon d'envisager la chose. On peut inventer aussi des nouvelles façons de voir la société et donc de nouvelles façons de faire du vélo.
Merci Catherine Berthoud. L'avenir, le choix pour finir, Vox Populi de notre réalisateur.
Salut, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui est pour votre service?
Monsieur, je viens chez vous pour acheter une bicyclette.
Vous êtes coureur, quoi?
Eh non, je suis égoutier. Ce qu'il me faudrait, c'est une bicyclette pour me rendre à mon travail. Pour tout aller, quoi.
Ah, oui, 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 une bicyclette pour tout aller, égout.
Faut du solide. C'est que je fatigue dur, moi.
Oh, monsieur, tous nos vélos sont de premier choix. Monsieur peut prendre nos vélos de confiance. Mais quelle que soit sa décision, surtout que monsieur se rappelle que d'après le code de la route, tout cycliste la nuit doit avoir des feux de position, une lanterne devant et un feu...
Où ça?
Derrière.
Voilà, moi je serai écologiste, j'organiserai une exposition comme celle qui a lieu jusque mi-août à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris. Pourquoi pas un colloque sur les égoutiers, les déchets et le vélo? C'est les grands sujets écologiques.
Ah oui, alors justement, je reviens d'un colloque à Munich, au Grand Musée des Techniques, où la question était posée, est-ce que faire du vélo et recycler les déchets, ça marche pour le développement durable? Et alors là, ce qui était étonnant, c'est que les réponses, en tout cas pour la bicyclette, n'étaient pas du tout celles qu'on aurait eues il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on disait oh, « Oui, le vélo va résoudre la crise, chassons les automobiles de la ville. » Et là, les gens disaient « Oh, est-ce qu'il faut vraiment chasser les automobiles ?»
Et ça s'appelait cycling et recycling. Voilà, un bel objet d'histoire. Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin, Franck Olivard, Jacques Sigal, Archive, Martin Penel, équipe de la Marche de l'Histoire. Et demain, on parle d'un vrai sujet d'histoire, le journal télévisé s'en est un.